Bonjour Jean-Baptiste Boine.
Bonjour.
Avant de parler de l'Europe et des élections européennes qui approchent à très grands pas désormais, un mot de l'affaire Vincent Lambert. La décision de la Cour d'appel de Paris qui a ordonné, comme vous le savez, avant-hier soir, la reprise de l'hydratation et de l'alimentation, vous paraît-elle une décision raisonnable? Est-ce que c'est une décision que vous comprenez?
Enfin, s'agissant de cette affaire et de la situation de Vincent Lambert, moi je trouve que... Ce qui est profondément gênant, c'est la façon dont tout cela est mis sur la place publique en raison de désaccords familiaux, parce que en réalité, on le voit, ça touche à l'intime, cela touche naturellement à la conception de la vie. Et moi, je crois que face à cela... En réalité, il n'y a pas de réponse simple. On le voit, il y a une procédure juridique, de nombreuses décisions qui ont été rendues, attaquées, etc. Et je dois dire qu'il est important, du coup, aussi, rendre hommage au travail qui a été fait en son temps par Jean Lenetti et Alain Claeys, qui avaient fait une loi, qui permettait d'ailleurs de rédiger des directives anticipées et qui permettent en fait à vous, à moi, à n'importe qui, de dire quel est son souhait en cas d'une situation comme celle-là. Et donc on doit faire connaître cette loi pour éviter que ce soit par proches interposés que des familles se déchirent. Et voilà, le président de la République d'ailleurs a trouvé les mots, je crois, en se disant profondément touché par la situation de Vincent Lambert. C'est naturellement une affaire qui relève surtout de l'intime pour moi.
Alors le président de la République, depuis quelques jours, il est entré de plein pied dans la campagne européenne. Vous avez l'impression que ça produit des résultats?
Il avait de toute façon besoin, et c'était nécessaire qu'il rentre de plein pied parce que on est à la croisée des chemins.
Mais il l'a fait dans le bon timing?
Il le fait de façon résolue et,
oui,
et il a raison.
Est-ce que c'est trop tard? Parce que pour l'instant, dans les sondages, en tout cas, dans les intentions de vote, ça n'a pas d'effet magique.
Ce que l'on sait, c'est que les campagnes européennes, elles ont parfois du mal à démarrer et que les Français, ils se font aussi leur opinion dans la dernière ligne droite. Et au moment où justement les Français, se font leur opinion, on s'exprimait, il était important que le chef de l'État s'exprime, porte une parole forte, parce que, comme je disais, on a la croisée des chemins. L'Europe, pendant des décennies, ça a été une addition. Ça a été des États qui se sont unis pour plus de coopération, pour affronter des défis en commun. Et on le voit, depuis le Brexit, c'est le risque de la soustraction. C'est le risque d'une fragmentation de cette Europe. Et ce qui était perçu comme évident ma génération peut être aujourd'hui remise en cause. Or, face aux tensions croissantes qu'on connaît dans le monde, face à une forme d'impérialisme qui se manifeste en Amérique, en Chine, ailleurs, en Russie, on a besoin, nous les Européens, d'être unis, d'être forts, d'être puissants. Et donc, dimanche, le choix, il est simple. Est-ce qu'on veut une Europe divisée, qui en plus est sous influence? Regardez les gesticulations de Monsieur Bannon auprès de Madame Le Pen, les compromissions de l'extrême droite autrichienne avec des oligarques russes. Donc, c'est pas une petite affaire qui se joue dimanche, et donc c'est important que le chef de l'État, je crois, prenne la parole fortement.
Puisque vous en parlez, le président de la République, mais aussi un certain nombre de cadres de La République En Marche, dénoncent l'ingérence que constituerait le rôle de conseil que Steve Bannon aurait auprès de Marine Le Pen. Mais quand bien même cela serait parfaitement avéré, ça n'a rien de nouveau, au fond, que des grandes puissances essayent, et parfois de grandes démocraties d'ailleurs, essayent de peser sur le cours de l'histoire d'un autre pays. C'est très courant.
Si ce n'est que les Européens, ce sont des citoyens libres, souverains, qui entendent le rester.
Oui,
les États européens sont libres, souverains, entendent le rester.
Oui.
Et il y a 30 ans, l'Europe, enfin... pouvait se réconcilier. Nous étions séparés, Européens de l'Ouest et de l'Est, par ce mur de Berlin, 165 kilomètres, avec des miradors tous les 100 mètres, et vous avez des gens qui, avec des petites bougies, sont venus à bout de ces veaux armés. Eh bien, je crois que c'est une formidable leçon. Il y a eu cette réconciliation européenne, et cette Europe, une Europe véritablement européenne, elle ne tolère justement aucune ingérence. Et d'ailleurs, le président de la République appelle à ce qu'on puisse mettre en place une véritable agence de protection de la démocratie européenne pour lutter contre les cyberattaques, pour mettre un cadre aussi législatif qui évite les interférences. Regardez, il y a quelques années, Marine Le Pen, elle a contracté un emprunt auprès d'un établissement bancaire russe.
Oui, parce que les banques françaises ne voulaient pas lui prêter. Et d'ailleurs, à cette époque, François Bayrou avait proposé une banque de la démocratie qui n'a pas vu le jour.
Tout à fait.
Il y a un problème de financement, ça,
oui,
tout le monde le reconnaît.
Pourquoi aller se financer en Russie alors que l'Europe est un espace où il y a énormément de capacités de financement. Donc, je trouve que c'est révélateur. C'est révélateur du fait que les nationalistes, en fait, sont prétendument des patriotes, mais qu'en réalité, les vrais patriotes, ce sont bien celles et ceux qui défendent une Europe souveraine et n'est pas souverainiste qui veut le faire croire, en réalité.
Alors, Emmanuel Macron veut réformer l'Europe. Il dit « Je veux une convention fondatrice européenne après les élections que les chefs d'État et de gouvernement, avec le nouvel exécutif et les responsables du Parlement, avec les citoyens, prennent le temps de définir la stratégie de l'Europe pour les 5 années à venir. » Finalement, c'est une sorte de grand débat à l'échelle européenne. Est-ce que ça ne va pas être compliqué ? Déjà, en France, ça a été pas simple. Et là, à 27 ou 28, mettre tout le monde d'accord, c'est pas gagné, non ?
Mais rendre l'Europe aux citoyens, je crois que c'est très important. Souvent, les citoyens européens, français ou autres, se sont plaints d'une construction parfois technocratique, bureaucratique, avec des décisions qui se prennent dans des cénacles restreints. Mmh. Et donc, le président de la République, il a construit sa campagne présidentielle en allant au contact des Français, cette grande marche. Il y a eu ensuite des conférences citoyennes européennes que nous avons conduites en France tout au long de l'année 2018. Bien ça, on veut le faire au niveau européen pour que les citoyens puissent vraiment avoir leur mot à dire et surtout que la feuille de route des 5 prochaines années, des prochaines institutions, soit aussi co-construite, co-élaborée avec les citoyens. Il y a les représentants des États, les gouvernements, les représentants du Parlement européen, mais c'est important que les citoyens, de façon directe, en étant pour certains tirés au sort, puissent être entendus. Je crois que c'est aussi une grande différence avec l'Europe portée parfois par le PPE, le PSE, etc. Ces grands partis européens qui, depuis 40 ans, se mettent d'accord ensemble, alors qu'ils se combattent sur les scènes politiques nationales. C'est « passe-moi le sel, je te passe le poivre ». Et en réalité, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'efficacité au service des citoyens européens.
Qu'est-ce que Nathalie Loiseau, la tête de liste de La République En Marche, a bien réussi dans sa campagne ?
Nathalie Loiseau, c'est une excellente connaisseuse de l'Europe. J'ai bien vu que la tête de liste était devenue pour beaucoup d'adversaires une tête de turc, mais ce que je peux vous dire, c'est que elle a une connaissance de cette matière et des acteurs qui va faire que
ça, a priori,
demain,
personne ne le remet en cause.
Que
mais
demain,
ma question,
quand il va falloir structurer un pôle central au Parlement, eh bien, elle sera très utile pour que la voix de la France porte et porte plus, bien que précédemment.
Mais avant d'être dans cette situation, il faut faire une bonne campagne pour avoir le maximum de députés européens. Est-ce qu'elle a bien réussi sa campagne ?
Alors, elle a tout à fait bien réussi en mettant sur sa liste, justement, un certain nombre de personnalités qui sont tout à fait dans l'ADN de ce que le président de la République a fait depuis 2 ans, réunir, fédérer. Regardez, qu'il y ait sur sa liste à la fois Pascal Canfin, issu de l'écologie, et par ailleurs Jonathan Decerlé, le président des jeunes agriculteurs, ça montre que elle souhaite aller au-delà des clivages artificiels, des postures, et faire travailler ensemble des gens issus de partout.
Merci Jean-Baptiste Lemoine, bonne journée.